9. Au réveil, il se sentait mieux, comme nettoyé. Il découvrit qu'on avait ajouté deux choses dans sa chambre pendant qu'il était parti déjeuner, avant de faire la connaissance de ses deux nouveaux merveilleux amis, Gladys et Tony. Un ordinateur portable était posé sur le bureau. Un Mac, comme le sien, mais un modèle plus ancien. L'autre nouveauté était un petit téléviseur installé sur un pied dans un coin. Luc commença par allumer l'ordinateur. Le tintement familier du Mac provoqua un autre pincement au cœur. Un écran bleu apparut avec ce message. Place un jeton devant la caméra pour ouvrir. Luc appuya plusieurs fois sur la touche Enter, sachant que c'était inutile. Saloperie. En dépit de l'aspect irréel et effroyable de la situation, il ne put s'empêcher de rire. Un rire sec et bref, mais authentique. Avait-il éprouvé un certain sentiment de supériorité, voire du mépris, à l'égard de ses enfants qui quémandaient des jetons afin d'acheter des jus de fruits alcoolisés ou des cigarettes? Évidemment. S'était-il dit « Jamais je ne ferai ça » Évidemment. Quand Luc pensait aux jeunes qui fumaient et buvaient, ce qui lui arrivait rarement, il avait d'autres préoccupations plus importantes, la première chose qui lui venait à l'esprit, c'était la vision de ces gothiques ringards qui écoutaient Pantera et dessinaient des cornes de diable pourries sur leurs blousons en jean. Des losers tellement débiles qu'ils croyaient commettre un acte de rébellion en s'enroulant dans les chaînes de l'addiction. Il s'imaginait mal faisant la même chose, et pourtant il était là, face à l'écran bleu d'un ordinateur. Il s'acharnait sur la touche Enter tel un rat enfermé dans une boîte de Skinner qui appuie sur un levier pour obtenir une croquette ou quelques grammes de cocaïne. Il ferma l'ordinateur et s'empara de la télécommande posée sur le téléviseur. Il s'attendait à découvrir un autre écran bleu et un message expliquant qu'il avait besoin d'un ou plusieurs jetons pour faire fonctionner la télé, mais au lieu de cela, il tomba sur Steve Harvey en train d'interviewer David Hasselhoff à propos de la fameuse liste des choses à faire avant de mourir. Le public riait en découvrant ses réponses. La touche « Guide » de la télécommande fit apparaître un menu semblable à celui de sa télé chez lui, mais comme la chambre et l'ordinateur, ce n'était pas exactement le même. Si le menu proposait un vaste choix de films et de programmes sportifs, il n'y avait aucune chaîne d'information. Luc éteignit la télé, reposa la télécommande dessus et regarda autour de lui. Outre celle qui donnait sur le couloir, il y avait deux portes. L'une s'ouvrait sur un placard. Celui-ci contenait des jeans, des t-shirts. Aucun effort n'avait été accompli pour copier ceux qu'il avait chez lui, ce qui constituait une sorte de soulagement. Deux chemises, deux paires de baskets et une paire de pantoufles. Pas de chaussures de ville. L'autre porte donnait sur une petite salle de bain, d'une propreté impeccable. Deux brosses à dents encore emballées étaient posées sur le lavabo, à côté d'un tube de Crest, tout neuf. Dans l'armoire à pharmacie, bien remplie, il trouva du bain de bouche, du Tylenol pour enfants, du déodorant, un répulsif anti-insecte à billes, des pansements adhésifs et divers autres articles plus ou moins utiles. La seule chose qui pouvait être considérée comme vaguement dangereuse était un coupe-ongle. Il referma l'armoire à pharmacie et se contempla dans la glace. Il avait les cheveux en bataille et des cernes sous les yeux. Trop de branlette, aurait dit Rolf. Bizarrement, il paraissait à la fois plus vieux et plus jeune. En examinant son lobe droit endolori, il vit le minuscule cercle métallique incrusté dans la peau légèrement rougie. Il aurait parié que quelque part au niveau B ou C ou D, un technicien suivait désormais tous ses faits et gestes. En ce moment même, peut-être. Lucas David Ellis, qui avait projeté de s'inscrire au MIT et à Emerson, était désormais réduit à un point clignotant sur un écran d'ordinateur. Il retourna dans sa chambre, non, la chambre, corrigea-t-il, regarda autour de lui et fit une constatation déprimante. Pas un seul livre, rien. C'était aussi affreux que l'absence d'ordinateur, peut-être même plus. Il retourna vers le placard et ouvrit les tiroirs l'un après l'autre, pensant peut-être y trouver une Bible ou un livre de Mormon, comme dans les chambres d'hôtel. Il ne découvrit que des slips soigneusement empilés et des chaussettes. Que lui restait-il? Steve Harvey interviewant David Hasselhoff? Une rediffusion de vidéo-gag? Hors de question. Il quitta la chambre, pensant que Kalisha ou un des autres pensionnaires traînait peut-être dans les parages. À la place, il tomba sur Maureen Alvorson, qui poussait dans le couloir son panier de linge débordant de draps et de serviettes pliées. Elle paraissait plus fatiguée que jamais et essoufflée. « Bonjour, Madame Alvorson. Vous voulez que je pose votre panier ?
Ah, ce serait très gentil, dit-elle avec un sourire.
On attend 5 nouveaux, 2 ce soir et 3 demain.
Et je dois préparer leur chambre.
C'est par là. Elle désigna la direction opposée à l'espace détente et au terrain de jeu. Luc se mit à pousser le panier, lentement, au rythme des pas de Madame Halvorson.
Vous ne sauriez pas, par hasard, comment je pourrais gagner un jeton ? J'en ai besoin pour déverrouiller l'ordinateur de ma chambre.
T'es capable de faire un lit si je t'explique comment on fait.
Bien sûr, je fais mon lit chez moi.
Au carré ?
Non.
Peu importe, je te montrerai. Si tu fais 5 lits, je te donnerai 3 jetons. C'est tout ce que j'ai dans ma poche.
Il me rationne.
Ce serait super.
Ok. Mais arrête avec tes Madame Halvorson.
Tu peux m'appeler Maureen ou simplement Mo, comme les autres enfants.
Entendu.
Ils passèrent devant l'ascenseur et s'engagèrent dans un autre couloir. Bordé lui aussi d'affiches encourageantes. Il y avait un distributeur de glaçons, comme dans les motels, et apparemment il ne fonctionnait pas avec des jetons. Soudain, Maureen posa la main sur le bras de Luc. Il arrêta de pousser le panier de linge et la regarda d'un air interrogateur. Dans un murmure, elle lui dit
« Je vois qu'on t'a mis une puce, mais tu n'as pas reçu de jetons.
Tu peux parler ici, tout bas. Il y a une dizaine d'endroits à l'avant où leur saleté de micro ne capte rien. » Des zones mortes, je les connais toutes. Celle-ci en est une, juste après le distributeur de glaçons.
Ok.
Qui t'a posé la puce et t'a fait cette marque sur le visage ? Tony ?
Luc sentait ses yeux le piquer et il n'osait rien dire. Il ne savait pas s'il pouvait parler sans risque. Il se contenta de hocher la tête.
Il fait partie des méchants, dit Maureen. Comme Zeke, et Gladys, même si elle sourit tout le temps. Parmi les gens qui travaillent ici, il y en a plein qui aiment maltraiter les enfants, mais ces trois-là, c'est les pires.
Tony m'a giflé.
Fort.
Maureen lui ébouriffa les cheveux. Un geste que les femmes faisaient avec les bébés, les jeunes enfants, mais Luc s'en fichait. C'était une marque d'affection, et à cet instant, ça représentait beaucoup.
Fais ce qu'il te demande, dit Maureen. Ne discute pas. C'est le meilleur conseil que je peux te donner.
Il y a des personnes ici avec qui tu peux discuter. Même Madame Sixby, même si ça sert à rien, mais Tony et Zeke, c'est des sales bêtes. Gladys aussi. Ils mordent.
Sur ce, la femme de ménage se remit en marche, mais Luc la retint par la manche de son uniforme marron pour la ramener vers la zone morte.
« Je crois que Nicky a frappé Tony, » murmura-t-il. « Il avait une coupure sur la joue et un léger coquard. »
Le sourire de Maureen dévoila des dents qui n'avaient pas vu le dentiste depuis longtemps.
« Bravo à Nicky, » dit-elle. « Je parie que Tony le lui a fait payer cher, mais quand même, bravo. Allez, viens. Si tu m'aides, on peut préparer ces chambres en moins de 2. »
Dans la première, des posters de Tommy Pickles et de Zuko, des personnages de dessins animés, ornaient les murs, et un bataillon de figurines G.I. Joe occupait le dessus de la commode. Luc en reconnut plusieurs immédiatement, car il avait eu sa phase G.I. Joe lui aussi, il n'y avait pas si longtemps. Le papier peint représentait des clowns joyeux tenant des ballons gonflables.
« Putain, lâcha Luc, c'est une chambre de môme !»
Maureen lui lança un regard amusé qui semblait dire « Tu n'es pas Mathusalem non plus. »
« Exact. Il s'appelle Avery Dixon, et d'après ma fiche, il n'a que 10 ans.
Allez, mettons-nous au travail. Je suis sûr que si je te montre comment on fait un lit au carré, tu y arriveras du premier coup. Tu m'as l'air d'être un garçon qui comprend vite. »